Attention, silence partout. Silence.
Silence, on tourne.
Silence, s'il vous plaît. Moteur.
Tourne.
Là. C'est un grand dieu.
Action.
Oui, je suis impuissant. Et je vous emmerde.
Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Multipass.
Tu aimes les films sur les gladiateurs?
Lilou Dallas Multipass.
Ne jamais lui donner à manger après minuit.
J'ai toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête.
Sarah Connor.
Oui.
Non, prénom.
Nikita.
1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça.
Cours, Forest, cours.
T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs.
Tu remballes ton matos et tes gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée.
Ton nom c'est quoi, pied tendre?
Eastwood. Clint Eastwood.
Est-ce que vous avez apporté des armes?
Ceci est un Magnum 44, le plus puissant revolver du monde.
Nom de Zeus!
Il pourrait vous arracher la tête comme le vent vous enlève votre chapeau.
Dieu existe. Il habite à Bruxelles.
Vous avez voué votre vie à Dieu! Et Dieu est amour!
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Claude?
But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure, que c'est un coup de fantomas.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jean-Claude au micro de Cinématique sans toc, l'actu aujourd'hui, et qui dit l'actu dit le duo Jean-Claude et Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Jean-Claude, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les multisondes de Radio Mercure, Happiness Radio Oise, Happiness Radio Amiens, pour rentrer dans cette salle de cinéma éphémère. Qu'est Cinématique sans toc.
Et une émission consacrée au cinéma et son actualité aujourd'hui, les films et un petit peu de documentaires. Nous allons parler des films qui sortent le 10 avril et également la semaine prochaine. Il sera question de Diable. Alors avec ça, on peut craindre le pire. Non, ça marche pas, on peut craindre. On s'attend au pire.
Oui. On s'attend, oui, bien ça, sûr. Mieux, très, très bon jeu de mots, Jean-Claude. Bravo, il est en forme.
Il sera aussi question de guerre civile, de mafia coréenne et côté docu d'un président qui avait de très gros sourcils, mais qui était un vrai nounours.
Effectivement, on se replongera il y a 50 ans, puisqu'il y a 50 ans décédé Georges Pompidou, président de la République à ce moment-là, le 2 avril 1974, et nous reviendrons sur le documentaire présent sur la plateforme de France Télévisions, Pompidou, la cruauté du pouvoir.
Excellent documentaire dont on va parler un petit peu avant de retrouver notre chronique des « Une année, un film ».
Et nous plongerons dans une année qui a vu naître un personnage illustre que vous pouvez entendre au micro. Et petit indice, ce n'est pas moi.
Le suspense est à son comble, les amis. Bon, allez, on commence toujours l'émission en musique. Et quelle musique, Jean-Luc ? Une partie de l'équipe de Cinématique sans toc, en compagnie d'une équipe qui s'appelle Filmélodie, que vous connaissez peut-être si vous allez sur les réseaux sociaux, se sont rendus à un concert la semaine dernière.
Des privilégiés.
Des amoureux de la musique de cinéma, tout simplement.
Tout à fait.
Vous avez été quelques centaines à être sur place. Je ne sais pas s'il y avait des auditeurs de nos radios, mais en tout cas, c'était dans les locaux de la Maison de la Radio et de la Musique, 116 avenue du Président Kennedy, Paris 16e, la Maison de la Radio.
On comprend tout de suite qui est allé, puisque tu as l'adresse.
Et qui mettait à l'honneur le compositeur français Philippe Sard, dont on parle beaucoup sur cette antenne. Si vous écoutez l'émission musicale de Cinématique sans toc, Philippe Sard, un grand compositeur de musique de film qui a travaillé pour de bon nombre de metteurs en scène, Bertrand Tavernier, Jacques Rouffio, Yves Boisset, Marco Ferreri, Georges Lautner, Alain Corneau, Jean-Jacques Haneau. Un concert de 2 heures qui mettait en valeur son travail. Pour la petite histoire, un concert que vous pouvez vous permettre de réécouter. On a le droit de le dire, hein, c'est les podcasts sur France Musique, il n'y a aucun souci. Mais on va vous offrir un extrait de ce concert, parce que je crois que ça le mérite. Et j'ai 3 titres à te proposer, Jean-Luc, c'est toi qui vas choisir.
Ça va peut-être être un peu compliqué.
Je dis l'enregistrement à la demande. J'ai 3 titres. Hein. Un des 3 morceaux qui a été joué, il y en a eu quand même une bonne vingtaine. Alors, je t'ai sélectionné soit la musique du film « Garçon » de Claude Sauté, réalisé en 1983, « Les choses de la vie » en 70, ou le film de Georges Lautner, tourné en 79, « Flic ou voyou ».
Écoute, je vais aller sur « Les choses de la vie ».
Eh bien, c'est très bien. C'est l'appellation du concert qui était donné à France Musique la semaine dernière. « Les choses de la vie ».
Évidemment, Michel Piccoli et Romy Schneider.
qui jouait dans ce film tourné par Claude Sauté en 1970. Ça a été la première musique de film de Philippe Sard, long métrage. Il avait 19 ans quand il a écrit cette musique et qu'il l'a proposée à Claude Sauté.
Magnifique musique.
Et nous allons l'entendre ici interpréter. C'est une sorte de suite arrangée par Dimitri Souboplatov. Et au piano, c'était Alexandre Tarot qui était invité avec l'Orchestre National de France, dirigé par Meyenshein. Voici un extrait de ce concert, Les choses de la vie. Magnifique interprétation qui avait été donnée jeudi dernier à la Maison de la Radio. Un extrait de ce concert que vous pouvez écouter en intégralité sur le site de France Musique. Les choses de la vie, interprété au piano par Alexandre Tarot à l'occasion de cet hommage à Philippe Sard. C'était donc la semaine dernière à Paris. Le cinéma, sa musique, mais son actu également cette semaine avec quelqu'un qui était parti et qui est revenu. Rosalie, elle est partie! Le premier film dans l'actualité de cette semaine, sorti le 10 avril.
Alors c'est une œuvre assez particulière ce film. Moi je l'ai découvert il y a quasiment un an, puisque c'était au Festival de Cannes. Le film était présenté dans la sélection Un Certain Regard, signé par Stéphanie Di Guisto. Ce film regroupe Nadia Tereskevich, Benoît Magimel et Benjamin Biolay. On se situe en 1870, Rosalie est une jeune femme dans la France de cette époque. Mais ce n'est pas une jeune femme comme les autres, elle cache un secret. Depuis sa naissance, son visage et son corps sont recouverts de poils. De peur d'être rejetée, elle a toujours été obligée de se raser, jusqu'au jour où Abel, joué par Benoît Magimel, un tenancier de café acculé par les dettes, l'épouse pour récupérer sa dot. Mais il ne sait absolument rien de ce secret, par contre.
Parce qu'elle n'est pas poilue complètement, c'est ça ?
Elle cache.
Il l'a pas vu à poil, en fait, tout de suite.
Non, c'est le cas de le dire, Jean-Claude. Je vois qu'on va être dans les jeux de mots aujourd'hui. Hein. Alors, ce film est quand même assez un film dramatique, quand même, à la base, Jean-Claude. Il est en train de m'en faire un film avec...
À vaudeville.
Ouais, on dirait l'animal dans Star Wars.
Et c'est pas la femme à barbe non plus, c'est vraiment un film dramatique, oui.
Ouais, et c'est une femme à barbe, finalement. Elle aurait été, faut se situer à cette époque-là, et même dans l'époque d'après, en 1900, elle aurait été un animal de foire.
Un peu comme Elephant Man, Londres.
Exactement. Le film reprend d'ailleurs certains de ces critères d'Elephant Man, mais associé à une femme à barbe, une femme de cirque. Tout ce qu'elle ne veut pas être, parce que Rosalie veut être regardée comme une femme, malgré sa différence, qu'elle ne veut plus cacher. Donc finalement, à un moment donné, c'est bas les masques. En laissant pousser sa barbe, elle va enfin se libérer. Elle veut qu'Abel l'aime comme elle est, alors que les autres vont vouloir la réduire à un monstre. Abel sera-t-il capable de l'aimer ? Survivra-t-elle à la cruauté des autres ? C'est toute la sororité, on va dire, de ce film. C'est toute la féminité également de ce film, qui est un charmant film, un très beau film, une belle reconstitution historique. Ce film a fait les beaux jours du Festival de Cannes quand même l'année dernière, et comme quoi certains films sortent très largement après la date du Festival de Cannes, puisqu'on est presque un an après, et on saurait vous conseiller chaleureusement d'aller retrouver en salle Rosalie et pourquoi pas une petite barbe à papa.
Elle sait faire beaucoup de choses, hein. Elle sait lire, elle sait même écrire.
Vous avez l'argent ?
Tu crois vraiment qu'il comprendra ?
Je le connais très peu, moi.
Je dois vous dire quelque chose. Je ne veux pas d'une vie sans enfant.
C'est un peu tôt, non ?
Ça doit être quelque chose. Quelqu'un qui vous aime comme ça, sans condition. Ah ! Reste pas encore, s'il te plaît.
Tu dois vivre ta vie de femme.
Laissez-moi vous regarder.
Mon père a essayé tous les remèdes quand j'étais petite.
Vous êtes née comme ça. Vous m'avez menti. C'est monstrueux.
Monstrueux ?
C'est ça, ta dot. Et le reste ?
J'ai besoin encore un peu de temps.
Quel temps ? Il n'y en a plus du temps.
J'espère juste que vous soyez différent.
Et moi, que vous soyez comme les autres.
La dernière fois, vous me demandiez si c'est un vrai phénomène de foire. Une femme à barbe, ça s'en est. Suffirait que je laisse pousser la mienne.
Qu'est-ce qui vous a pris ?
Comment vous allez faire avec vos têtes ? Ça fait venir les clients.
Ne faites pas ça. Ils vont nous humilier.
Vous êtes belle, Rosalie.
Je vous fais pas de honte.
C'est un enfant vous, là. C'est pas un mari.
Ah, on a les couilles sous ses poils.
Vous partez chez moi ! J'ai jamais demandé ça à moi !
Ça vous amuse bien, cette petite comédie ?
C'est pas une femme, ça.
Cinématique sans toc, l'actu avec un tout petit peu de musique. Et quelle musique, mon Dieu. Oh, bah c'est le cas de le dire.
Mais ton Dieu serait plutôt un Dieu avec des pattes assez crochues quand même.
Ah ouais, mais là on est en 1976 avec une musique qu'on ne peut pas vous faire durer plus longtemps parce que vous allez tous vous sauver.
Ça va grimper au-dessus des armoires.
Ce qui est terrible, c'est que cette musique a obtenu quand même un Oscar, l'Oscar de la meilleure musique de film en 1976 par son compositeur Jerry Goldsmith pour un film réalisé par Richard Donner en 1976 avec Lee Remick et Gregory Peck. Il s'agit de La Malédiction, The Omen. Eh bien, La Malédiction, on va enfin savoir ce qui s'est passé avant.
Et oui, puisque le film sort cette semaine, le 10 avril, La Malédiction, l'origine.
Alors pour revenir au premier, pour ceux qui ne l'ont pas vu en tout cas, c'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma fantastique et d'horreur, avec une terreur finalement qui aujourd'hui n'a pas vieilli, puisque paraît-il, en tout cas pour certains critiques qui ont vu le film, aujourd'hui la préquelle serait un des films d'horreur le plus terrifiant de 2024.
Oui, c'est le cas, sans vous dévoiler quoi que ce soit sur ce film, on va essayer d'en parler sans trop en parler, comme un peu à notre habitude, mais alors là encore plus, puisqu'il faut garder le suspense et les jumpscares dans ce film.
On peut peut-être parler juste du début du premier film.
Exactement.
Qui raconte...
la fin de celui-ci, finalement.
Voilà. On sait très bien que l'antéchrist va sévir dans le monde.
Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est un antéchrist, l'antéchrist est tout simplement le fils de Satan. C'est l'opposé de Jésus-Christ.
Voilà. Il est adopté par un couple dont le mari est ambassadeur et est joué par Gregory Peck et c'est une façon très intelligente finalement d'asseoir son pouvoir, c'est d'être materné et élevé par une personnalité importante du tissu socio-économique et politique des États-Unis.
C'est une façon d'avoir une main sur le berceau, pour citer un autre, un autre film dans ces lignées-là. Et c'est vrai qu'on est avec 6.
La marque du diable. 6.
les chiffres du diable, puisqu'on est à la sixième heure, du sixième jour, du sixième mois, il viendra au monde. C'est l'Apocalypse selon saint Jean. Et on est totalement dans ça, dans le premier, la malédiction, l'histoire de Damien. Et on l'est aussi dans ce préquel où on va se situer en Italie et toute la construction de comment cet enfant va être mis entre les mains de ce couple d'ambassadeurs, l'ambassadeur et son épouse, qui ne peut a priori plus avoir d'enfant. Vous verrez si c'est une réalité ou pas, qu'on découvre totalement dans le film de Richard Donner. Et finalement, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a toujours autant peur avec ce genre de film. Parce qu'il y a des films, finalement, où c'était des films d'horreur, où aujourd'hui l'horreur est complètement passée et on n'a plus peur. Il y a des films qui sont même limite de la drôlerie.
On voit tout, alors que là, dans La Malédiction, tout est suggéré.
Oui, et on est dans la croyance. On n'est pas dans un monstre imaginaire. Il y a une partie de croyants, quelle que soit la croyance, hein, d'ailleurs, où là, finalement, c'est toujours la bataille entre le bien et le mal. Ce film rassemble tout ça. C'est aussi pour cette raison que La Malédiction, l'origine, qui est sortie cette semaine, est un film qui, le moins qu'on puisse dire, fout les chocottes.
Qu'est-ce que Carlita vient faire dans cette histoire ?
Cette église a conservé son pouvoir pendant des milliers d'années. Ils ne reculeront devant rien pour que cela continue. Comment contrôler des populations qui ne croient plus ? Il faut créer quelque chose qui leur fasse peur. Je pense qu'elle est destinée à être la mère.
La mère ? La mère de quoi ?
Après cette bande-annonce méphistophélique, sans trop en dévoiler, Jean-Luc va vous narrer un petit peu quand même comment commence le film, un petit peu sans vous en dire plus.
Et surtout, on va retrouver une excellente actrice qui était dans la série The Servant, signée par Yann Chamalan, qui est Niel Tiger-Free, qui, a priori, dans ce film, nous fait une performance top. Donc elle joue Margaret après avoir été envoyée à Rome pour entrer au service de l'église. Margaret est une jeune américaine, se retrouve bientôt confrontée à des forces obscures qui l'amènent à remettre en question sa propre foi et à lever le voile sur une terrifiante conspiration qui entend donner naissance à l'incarnation du mal. Le mal va se mouvoir à 6 heures, le sixième jour du sixième mois. Et finalement, le mal va certainement venir au monde. C'est vrai que ces derniers temps, on a des films quand même qui ont tenu la rampe. On pense à Imaginary qui est sorti il n'y a pas très longtemps avec un ours maléfique qui apparemment fait... C'est un petit film qui a fait un carton. Et puis, évidemment, on attend des grosses pointures qui vont arriver derrière, qui est Le Mangeur d'âmes. Le film qui a été réalisé par le tandem qui avait réalisé À l'intérieur, film très très percutant. Le Mangeur d'âmes est un film à la fois horrifique mais également policier, et ce mélange des deux par ces deux réalisateurs français, Bostillon et Maury, on va les retrouver fin avril. Donc ça s'appelle Le Mangeur d'âmes, et ça, on vous le recommande aussi très chaleureusement. Mais pour l'instant, au cinéma, vous allez aller voir La Malédiction, l'origine, et c'est pas Made in France, c'est Made 20th Century Fox et Disney, puisque oui. La Century
Quel paradoxe,
Fox
oui.
appartient maintenant à Disney.
On ne peut plus réel.
L'actualité du cinéma avec un film qui, un des films qui va marquer, je pense, l'année 2024, un film où le rôle des médias est assez mis en valeur. On le sait très bien qu'en ce moment, les médias sont assez controversés, quelle que ce soit la presse écrite et également la presse audiovisuelle. Il en est un petit peu question dans ce film. C'est une fiction, évidemment, mais ça pourrait très bien ne pas en être une. Ça s'appelle Civil War et c'est réalisé par Alex Garland.
Oui, Alex Garland, pour ceux qui ne situeraient pas, c'est Annihilation, également Ex Machina, pour citer ses derniers films, et The Man, le tout dernier. Et Civil War, on va se plonger tout simplement au cœur d'une guerre civile aux États-Unis. On est dans une course effrénée à travers une Amérique qui est complètement fracturée. On est dans un futur proche et plus que jamais sur le fil du rasoir. Alors, c'est une équipe de journalistes qui traverse les États-Unis et qui vont être confrontés à ces combats. D'une certaine façon, le personnage de Lee, qui est joué par Kirsten Dunst, nous démontre, alors c'est une des journalistes, représente le point de vue impartial du réalisateur. C'est l'œil du réalisateur. Elle est témoin de l'évolution de ce pays en pleine mutation. Le cinéaste a réalisé un film de guerre d'un genre radicalement nouveau, finalement, à travers ce film Civil War. Un thriller rempli d'action avec un véritable parti pris à propos des conflits armés. Le film se déroule dans un futur proche, alors que l'Amérique est divisée en plusieurs clans et que la guerre civile fait rage. Les forces de l'Ouest, une alliance armée d'États en rébellion contre le gouvernement fédéral, sont sur le point de forcer la capitale à se rendre. Dans l'espoir d'obtenir une dernière entrevue avec le président des États-Unis, joué par Nick Offerman, Lee, Kirsten Dunst, souhaite se rendre à la Maison-Blanche, accompagné de deux journalistes, un qui a de la bouteille, qui est Jesse, joué par Khaled Spacey.
Qui ne sera pas d'ailleurs chose facile, puisque les militaires en armes sont chargés de tirer à vue sur les reporters en plus.
Tout à fait.
Citoyens d'Amérique, ceux de l'Alliance de Floride et des forces de l'Ouest du Texas et de Californie, doivent être informés qu'elles pourront réintégrer les États-Unis à la seconde où leur gouvernement sécessionniste illégal sera renversé.
Vous ne savez même pas de quel bord ils sont.
Il y a des mecs qui essaient de nous tuer. Et nous aussi, on essaie de les tuer.
Au fur et à mesure qu'ils traversent le pays, le film nous montre une réalité complètement alternative, de plus en plus angoissante et qui semble répondre à toutes les inquiétudes de Lee. Il nous montre ce qui se produit lorsque les gens ne communiquent plus du tout, les lourdes conséquences que cela peut avoir, quand personne ne s'écoute, quand les journalistes sont réduits au silence, quand nous perdons notre vérité commune. Civil War dépeint de manière sensible et parfois complètement terrifiante les conséquences humaines de la guerre. Et finalement, on est complètement plongé dans les rues de Washington, on est plongé dans le Donbass de l'Ukraine. Et c'est là que finalement on s'aperçoit que dès qu'on enlève la civilité dans des rues, on se souvient également des rues de Londres rendues par Alex Garland dans 28 jours plus tard, où un homme s'éveillait dans un monde complètement apocalyptique où il n'existait plus que des zombies, mais qu'il ne voyait pas dans un premier temps. Et là, c'est pareil, le cinéaste transporte ici de façon complètement radicale les images que l'on connaît des rues de Washington en zone de guerre. Les paysages américains sont détruits par la violence, semblent à la fois surréalistes et étonnamment réels. On est vraiment plongé au cœur du conflit et au cœur de cette équipe de journalistes. C'est un film, peut-être un des films les plus anti-militaristes qui soit, paradoxalement qu'on puisse le penser. Évidemment, c'est pas un film à prendre au premier degré, c'est un film à analyser, à sentir, comme quoi des franges armées, et Dieu sait qu'il y en a aux États-Unis, des franges armées, peuvent faire basculer un pays très rapidement. Et c'est aussi toute la machinerie de ce moment de bascule qui est complètement décrite dans ce film, Civil War, qui est certainement la bombe du moment, et elle n'est pas atomique, contrairement à celle que va nous sortir dans à peu près un an et demi Denis Villeneuve avant de s'attaquer à Dune 3.
Vous êtes au courant qu'il y a une guerre civile qui se déroule dans tout le pays ?
Nous, ce qu'on veut, c'est rester à l'écart. Avec ce qu'on voit aux infos, c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
Mes chers compatriotes américains, les soi-disant forces de l'Ouest, du Texas et de Californie, ont subi une défaite très importante face aux forces de l'armée des États-Unis.
Monsieur le Président, est-ce que vous regrettez l'utilisation de frappes aériennes sur nos citoyens ?
Aujourd'hui, ils avancent sur Washington.
On doit aller là-bas.
Dans la capitale, ils tirent à vue sur les journalistes.
Mon instinct me dit qu'on va y rester.
Parlez-y.
Chaque fois que j'ai survécu à une zone de guerre, j'ai cru que ça servirait de mise en garde chez nous. Ne faites pas pareil. Pourtant, on y est.
Je crois qu'il y a comme un malentendu.
Quoi ?
On est américain, d'accord ?
Quel genre d'américain vous êtes ? Vous le savez pas ?
Les forces de l'Ouest atteindront la Maison Blanche le 4 juillet.
C'est pas vrai.
Montez dans la voiture ! Montez dans la voiture !
Allez, allez, allez !
Restez en dehors de ça.
C'est hors de question.
Une seule nation, sous l'autorité de Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous.
Allez, 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 allez !
Que Dieu bénisse l'Amérique.
On vient d'écouter la bande-annonce de Civil War qui sera donc visible à partir du 17 avril sur les écrans, réalisé par Alex Garland. Et là maintenant on va du côté de la Corée avec un film, allez, est-ce qu'on peut le dire, un film qui se vit jusqu'au bout des ongles, Jean-Luc ?
Oui, à condition qu'il t'en reste des ongles. C'est un film assez violent. Pourquoi on vous parle de ce film ? Tout simplement parce qu'il va certainement passer un peu inaperçu, et c'est dommage, dans la marée des films sortant le 17 avril. Hopeless, c'est un film qui a été présenté au dernier festival de Cannes dans Un Certain Regard. Décidément, les films d'Un Certain Regard sortent un petit peu au même moment. Et on va suivre Eon, qui a été abandonné par son père biologique à un très jeune âge. Il vit une adolescence difficile entre son beau-père violent et sa mère accablée par l'adversité, mais il refuse de renoncer à son rêve, mettre suffisamment d'argent de côté pour s'installer avec sa mère aux Pays-Bas. D'un autre côté, il va rencontrer un caïd d'une organisation criminelle au tempérament froid. Il s'est très tôt confronté à la cruauté de l'existence et estime que dans la vie, on doit se résoudre à faire certaines choses, y compris tuer les autres. Ces deux hommes, qui ont des personnalités opposées, évoluent dans des milieux très différents, comprennent qu'ils sont marqués par des blessures et des souffrances similaires. Et pour quitter ces trajectoires qui leur sont dédiées, finalement, de garçons qui ne vont pas s'en sortir, ils vont devoir briser un peu la réalité qui s'offre à eux, et ils vont faire des choix périlleux. Le choix, c'est d'être au cœur de ce qui n'est pas autorisé pour pouvoir s'autoriser une nouvelle vie. Et donc ça s'appelle Hopeless. C'est un thriller plutôt costaud, signé Kim Chang-ong, qui est un jeune réalisateur coréen. Ce film est un joli film, je pourrais le dire dans ce sens-là. Alors, quand je dis un joli film, c'est-à-dire que c'est un film très très bien réalisé, avec aussi des atmosphères de nuit qui font penser par moments un peu à du Melville dans l'image. On sent qu'il y a une imprégnation du cinéma français, bizarrement, mais c'est comme ça. Et c'est revendiqué par ce jeune réalisateur coréen. Et on sent que finalement, il y a une patte du film policier, qu'on va appeler là de polar. Et Hopeless est un film à pas laisser passer et auquel on vous demande de laisser sa chance. Allez le voir en salle, Hopeless.
C'est qui vous en a pas de.
Après, on a parlé de la salle de la salle de la salle
de la salle de la salle
de
la salle de la salle de la salle de la salle
de la salle de la salle de.
C'était un extrait de la bande-annonce en version originale de Hopeless, Et dans Cinématique sans TOC, nous aimons les films, les longs-métrages, nous aimons les séries télé, mais nous apprécions également, quand ils sont bien faits, tout particulièrement les documentaires, Jean-Luc. Et un documentaire qui est visible depuis peu de temps.
Oui, ce documentaire a été diffusé pour sa première diffusion le 27 mars sur France Télévisions, et il est disponible jusqu'au 3 août sur la plateforme de France Télé. Et si vous ne l'avez pas vu, alors pour ceux qui sont des amoureux d'histoire, et aussi pour ceux qui sont en terminale par exemple et qui auraient besoin d'approfondir leurs connaissances sur l'après Seconde Guerre mondiale.
Parce qu'on est déjà dans l'histoire avec quel président ?
Georges Pompidou, la cruauté du pouvoir. Donc la France a commémoré le 2 avril 2024 le 50e anniversaire de la disparition de Georges Pompidou, deuxième président de la 5e République, dont le mandat fut interrompu par son décès en 1974. Ce documentaire rappelle l'empreinte et le destin républicain de ce petit-fils de paysan et fils d'instituteur, qui a fait entrer la France dans une modernité conquérante et inédite. Le Concorde, le TGV, pour ne citer que deux éléments, mais également le nucléaire, la force de dissuasion, tout ça c'est Pompidou. Il sera également le portant de nombreuses avancées industrielles, scientifiques et culturelles. À la différence de tous ceux qui ont exercé la charge suprême depuis 1958, Pompidou n'a pas passionnément recherché le pouvoir. D'étape en étape, les responsabilités semblent s'être complètement imposées à lui, comme s'il était obéissant à un destin. Et finalement, c'est effectivement un homme de destin. Et ce qui est intéressant à travers ce documentaire aussi, c'est d'avoir des images qu'on n'a jamais vues. Un chef d'État français de surcroît qui décède en plein exercice et au moment où les télévisions, la presse n'est absolument pas au courant. On est au courant qu'il est vaguement malade, mais les médias ne pensent pas à ce point.
Non, mais il a un traitement qui fait qu'on voit qu'il est malade, mais il y a des directives au niveau des médias qui interdisent de filmer à une certaine distance, avec une certaine focale, pour ne pas, on va dire, surexposer son visage à des gros plans, par exemple.
On parle des médias français, et on voit effectivement ces images qui sont complètement briefées par l'État français, ne le sont pas pour les médias des autres pays, américains et japonais, pour le coup, lors de un de ses derniers voyages qui se déroule en Finlande, où là on voit quand même qu'il a un visage complètement boursouflé, puisqu'il a un traitement à base de cortisone, pour ceux qui connaissent ce que peut être la cortisone, mais c'est un peu le traitement de la dernière chance pour la maladie de Waldenström dont il est malheureusement atteint. Et il va également donner une des dernières conférences de presse lors d'un déplacement en France qu'il n'annule pas quelques jours avant son décès. Et on le voit dans ce documentaire, un moment où il a complètement un brouillard intellectuel, où il est perdu dans ses propos et ça ne lui ressemble pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui est resté debout jusqu'à la fin. Il est décédé d'une septicémie foudroyante qui n'était que la conséquence de son cancer, une maladie rare du sang. Ce décès a pris de court tout le monde. Et ce qu'on vous propose, c'est d'entendre les minutes de l'annonce du décès du chef d'État, Georges Pompidou.
Le 2 avril 1974, les téléspectateurs sont installés devant leur poste pour regarder un film et un débat des dossiers de l'écran.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. L'action du film que nous allons regarder ensemble dans quelques instants se situe en 1911, soit 6 ans avant la révolution d'octobre, c'est-à-dire à l'époque des tsars.
Les experts réunis sur le plateau ne se doutent pas que le moment est historique.
Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Ce communiqué est signé du professeur Vignaloux, le médecin de M. Pompidou.
La mort du président prend la direction de l'ORTF totalement au dépourvu.
Ok, alors attention, on démarre bientôt.
Les journalistes sont contraints à une improvisation qui révèle leur étonnante impréparation à cet événement.
Top TC.
Nous allons maintenant de plus en plus pouvoir vous passer des images qui correspondront à diverses époques de la vie du président décédé il y a environ une heure et demie. Nous allons les mêler d'informations parlées. Nous allons, je vous l'ai dit, improviser parce que ce qui est survenu aujourd'hui, eh bien, je dois dire que nul ne s'y attendait. Nous, pas plus que les...
C'est comme ça un petit peu, c'est comme ça que commence ce documentaire et ça souligne un petit peu la façon un petit peu décontenancée qu'avait l'équipe de télévision, les équipes de télévision à l'époque, de l'impréparation finalement du décès d'une personnalité politique, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire aucune nécrologie de prêtre, pas de documents vraiment disponibles à l'instant T.
Pour reprendre un petit peu l'actu de notre émission, on est un peu dans la malédiction, dans la superstition. Si on commence à faire une nécro sur un chef d'État qui va décéder, c'est qu'on pressent qu'il est très malade. Mmh. Et c'est pas le cas à ce moment-là pour les médias. En tout cas, des médias qui sont, on vous le rappelle, l'ORTF, qui est un média d'État. Et pas grand-chose ne filtre de l'Élysée sur la maladie du président, même si on se doute qu'il est malade, mais on se doute pas qu'il va décéder dans l'exercice du pouvoir. D'où certainement le titre, La cruauté du pouvoir, Georges Pompidou, La cruauté du pouvoir.
Disponible désormais sur la plateforme France Télévisions.
Écoutez ça !
Cinématique.
Sans toc.
Il est temps de penser de revêtir sa tenue, Jean-Claude. La tenue de l'activité physique. L'activité physique, c'est aussi bien évidemment le support physique. Ouais. Et le support physique, avec le physique que tu as...
Bah, c'est cinéphile sportif. Hein,
ça
c'est...
ne peut être que de bon augure. Et on va parler de deux Blu-ray cette fois-ci, sortis le mois dernier.
Oui, le cinéma, ça conserve, on le sait très bien. C'est pour ça qu'on préserve aussi le support physique ici sur nos antennes. Avec un film signé Frédéric Tellier, sur lequel on va pas s'exposer trop longtemps puisqu'on en a longuement parlé sur cette antenne, l'histoire de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, une vie de combat, qui est sortie le 7 mars dernier. La vie d'un homme à la destinée incroyable, superbement interprétée par un Benjamin Lavergne, plus qu'habité par le rôle, quoique un petit peu trop grand pour incarner le personnage, mais c'est un détail auquel on ne pense plus au fil de l'histoire. L'abbé Pierre, une vie de combat, reste un biopic un peu empathique, mais néanmoins instructif. Côté image, c'est un master qui mêle netteté, finesse et précision. C'est l'ombre et la lumière en un seul film. Autre parti pris intéressant, l'incursion d'images d'archives en noir et blanc, de la guerre notamment, ce qui permet une immersion parfaitement intégrée au film. Pour le son, il n'y a pas de Dolby Atmos, mais un DTS 5.1 redoutable sur notamment les scènes de passage d'avions de combat ou de fusillade durant les séquences pendant la guerre, notamment cette fameuse séquence pendant une embuscade dans les montagnes. Côté bonus, des interviews de Frédéric Tellier, Benjamin Lavergne, Emmanuel Berco et Laurent Desmar, le président de la Fondation Abbé Pierre. On pourra y voir également quelques scènes coupées. Et concernant la musique, un côté plutôt emphatique dans la partition du compositeur Bryce Dessner, à qui l'on doit notamment des musiques additionnelles de The Revenant d'Alejandro González Iñárritu. Sur fond sonore de l'Abbé Pierre, un petit bout de la bande-annonce de l'Abbé Pierre, une vie de combat, disponible en Blu-ray et en DVD depuis le 7 mars.
Contre la dictature.
Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Je vais bien vous aider.
Merci, ma sœur.
Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va ?
Va pour Abbé Pierre.
J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée.
Les malheureux souffrent et regardent vers vous. Et vous ne faites rien.
N'est pas un fils de grand bourgeois qui va nous faire la leçon.
J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid.
Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée.
On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré. On m'a applaudi. On m'a contesté. On m'a trahi.
1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires.
J'ai douté.
Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens y voient de moins en moins la charité, la bienveillance.
J'ai désespéré.
Emmaüs, c'est fini.
C'est à nous de vous aider maintenant.
J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais m'a-t-on seulement écouté?
Vous vous rendez compte? On a construit tout ça.
Depuis le 13 mars, les fans de 7e art et de gastronomie de haut vol peuvent se procurer l'édition Blu-ray disque de La Passion de Dodin Bouffant avec Juliette Binoche et Benoît Magimel. Ce film est signé par le réalisateur Trang Han Ung et il est sorti chez Gaumont.
C'est vrai que ça fait quelques temps qu'il est déjà sorti en Blu-ray, mais on ne le voit pas beaucoup dans les rayonnages des magasins. Quand il y a encore des magasins qui vendent du support physique, c'est de plus en plus rare. Donc nous, on a envie d'inviter les spectateurs à s'immerger dans cet univers d'un gastronome passionné à la recherche de l'extase culinaire et sentimentale. Un film qui a été honoré par le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes et qui a également les honneurs de Radio Mercure avant et juste après sa sortie. Heureusement que nos antennes en ont dit du bien parce qu'il a été finalement Jean-Luc assez malmené hein, par la critique, notamment la critique gastronomique.
Il a été pas mal oublié, on dira, et un peu avalé par une certaine anatomie.
Que ce soit les critiques gastronomiques et même les soi-disant bien-pensants de la presse cinéma, cela ne t'aura pas retiré le plaisir alléchant que tu as eu à la vision de ce film et ses séquences gastronomiques quasiment filmées comme une chorégraphie.
Totalement, et cette envie irrésistible d'attaquer un bon repas à la sortie du film.
Tout ça, c'est très bien sublimé par un master image exceptionnel aux textures et couleurs qui donnent à l'ensemble un aspect on ne peut plus comestible, sans compter les éclairages un peu ambrés qui mettent l'eau à la bouche. Et si on y ajoute le son de cuisson des aliments, grésillement, friture ou même les bruits des ustensiles et autres tranchages, ça nous donne une véritable symphonie culinaire.
De lard fumé, des champignons.
On va voir la crème fraîche.
Le carré de veau, s'il vous plaît.
Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi.
Du persil.
Et aussi du paprika et on ajoute de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie.
Parlez pour vous, je me sens en plein été.
Je vous le demande encore, Eugénie, marions-nous.
Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux, à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi?
Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot-au-feu de ma composition, avec votre aide.
C'est un peu risqué et audacieux.
Il faut de la culture, de la mémoire, pour que le goût se forme. Tu dois te souvenir de ce goût.
Oui, monsieur.
Les potages seront un de caille au coulis de la reine. Pourquoi vous n'avez jamais à table avec nous?
Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez.
Eugénie? On ne sait pas de quoi souffre Eugénie.
Je me sens parfaitement bien.
Non, vous n'allez pas bien. Je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais... vous ne vous êtes jamais eu.
Vous voyez que dans notre chronique support physique, on n'aime pas que les vieux films, on a envie de parler de films récents quand ils le méritent bien sûr, et ces deux films-là le méritent amplement, Jean-Luc.
Oui, et puis on pourrait dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures cuisines.
Absolument. Bon, trêve de plaisanterie, l'émission avance et on va se plonger à 63 ans en arrière, Jean-Luc, avec une année faste, pas pour tout le monde, mais une année sur laquelle tu t'es penché au niveau actualité filmique.
Et je ne suis pas tombé malgré le gouffre.
Vaut mieux pas. On est en 1961.
8 janvier, lors du référendum sur l'autodétermination, la politique algérienne de De Gaulle est approuvée par 75,25% des suffrages exprimés en métropole et 69,09% en Algérie.
Toute la nuit, le ministère de l'Intérieur a publié les résultats de la journée, dont la leçon devait être tirée pour les journalistes par le ministre de l'Information, M. Terrenoire. Le oui franc et massif demandé par le général De Gaulle pour construire l'avenir.
24 février, inauguration de l'aérogare d'Orly, dit plus tard Orly Sud, par le président de Gaulle.
Je m'en vais dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions.
10 mars, c'est la sortie à Paris du film Rocco et ses frères, film franco-italien de Luchino Visconti avec un certain Alain Delon.
Tous frangins ?
Oui, tous frangins.
Bon, alors tu es qui, toi ?
Rocco.
Le 23 avril, dans une allocution télévisée, Charles de Gaulle condamne le quarteron des généraux en retraite et s'attribue les pleins pouvoirs en vertu de l'article 16 de la Constitution.
J'ai décidé de mettre en œuvre l'article 16 de notre Constitution. À partir d'aujourd'hui, je prendrai, au besoin directement, les mesures qui me paraîtront exigées par les circonstances.
C'est les 25 et 26 avril que se terminera ce putsch raté. La sédition des généraux prend fin. Gouraud, Challes, puis Zeller se constituent prisonniers.
Ce groupe et ce quarteron possèdent un savoir-faire limité et expéditif.
Au mois de juin, un écho particulier avec l'année 2024, barrage d'agriculteurs sur les routes de Dordogne en solidarité avec leurs collègues bretons. Le 8 juin, l'agitation paysanne bat son plein en Bretagne, puisque la sous-préfecture de Morlaix est prise en otage, alors que 3 à 4 000 agriculteurs bouclent la ville.
Chaque jour aura vu une nouvelle cité bretonne investie par les commandos d'agriculteurs. Guingamp après Morlaix, Lannion et Pontivy. À Pontivy, pour la première fois, la manifestation devait dégénérer en violence. Que veulent donc ces hommes en colère ? Des satisfactions immédiates, certes. Mais derrière cette jacquerie, ce profil, nous l'avons constaté la semaine dernière, tout un problème breton. Un problème qui dépasse le prix de la pomme de terre. Malgré les 1200 tracteurs des manifestants déchaînés de Pontivy, c'est le problème de la Bretagne déshéritée.
7 juillet, mise en service du premier Mirage 3, qui permet à la France d'être le premier État européen à posséder des avions de chasse pouvant dépasser Mach 2.
Puis un dialogue s'établit. On ne comprend pas très bien. Nous vivons sur Terre et ce sont des mots qui mesurent le ciel, l'espace, des vitesses qui s'estiment en Mach. Mach 1, ça fait 1228 km à l'heure. Mach 2, 2456 km à l'heure.
16 juillet, deuxième victoire de Jacques Anquetil dans le Tour de France.
Voilà, le classement est maintenant rendu officiel de ce Tour de France. Plus rien n'y pourra changer. Sur le podium, Jacques Anquetil et son maillot jaune. À sa droite, le deuxième, Guido Carlesi. À sa gauche, le troisième, très déçu, Charlie Gaulle. Ici Robert Chapat qui vous a parlé du Parc des Princes sur des images de Gilbert Larriaga. À vous, Cognac G, Télévision française.
Le mois d'août se passe dans une cave le 26 août. C'est la sortie du film Le Cave se rebiffe de Gilles Grangier, dialogue d'un certain Michel Audiard.
En admettant qu'on soit 5 sur l'affaire, ça rapporterait net combien à chacun ?
20 ans de placard, les bénéfices ça se divise, la réclusion ça s'additionne.
5 septembre, la France s'arrête. C'est la naissance d'un certain Jean-Claude. Jean-Claude deviendra le créateur d'une radio. Créateur de Radio Mercure, Jean-Claude est toujours de ce monde et nous remercions Dieu tous les jours d'avoir hissé ce personnage haut en couleur au micro de Cinématique sans toc.
On se passera d'archives cette fois-ci, Jean-Luc.
Nous avons ses premiers cris, mais nous les garderons pour nous.
Allez, si on parlait plutôt de voiture.
4 octobre, ouverture du salon de l'automobile, dit le salon de la petite voiture. Présentation de la Simca 1000, de la Citroën Ami 6 et de la Renault 4.
Vedette du complexe industriel Simca dont elle est la dernière née, la Simca 1000, 5 chevaux, nerveuse, confortable, spacieuse, ne fera pourtant pas oublier la robuste étoile 6 chevaux.
5 octobre, en réponse aux attentats perpétrés en France par le FLN, le préfet de police de Paris, Maurice Papon, impose un couvre-feu discriminatoire de 20h30 à 5h30 aux Français musulmans d'Algérie.
Pour protester contre ce couvre-feu, le FLN appelle hommes, femmes et enfants à une manifestation pacifique le 17 octobre. Ce jour-là, 20 000 à 40 000 personnes selon les estimations affluent vers Paris. Face à eux, 7 000 policiers et 1 400 CRS et gendarmes mobiles. La répression sera terrible.
La police tire dans la foule. Le lendemain, Le Monde annonce 2 morts parmi les manifestants.
J'ai décrit les différents modes d'exécution, en particulier la strangulation, et puis d'autres étaient assommés, jetés dans la Seine à moitié assommés.
Le bilan officiel est de 6 morts et 40 blessés. Le FLN parle de 200 morts et de 400 disparus. Après l'ouverture des archives dans les années 1990, les historiens estiment entre 48 et 200 personnes le nombre de tués et des centaines de blessés. Des corps auraient été jetés dans la Seine.
Dans cette nomenclature d'événements plus ou moins heureux et malheureux de 1961, tu as égrené quelques titres de films, mais il y a également un dessin animé qui t'a marqué toi personnellement. Je crois que c'est, me semble-t-il, même si c'est pas à sa sortie que tu l'as vu, mais c'est ton premier Disney au cinéma.
Pongo, espèce d'idiot, viens ici. Rends-moi mon chapeau, Pongo.
C'est mon premier Disney au cinéma, c'est Les 101 Dalmatiens. Les 101 Dalmatiens, c'est tiré d'un roman pour enfants anglais écrit par Dodie Smith. C'est l'histoire de Pongo et Perdita, deux magnifiques Dalmatiens. Et un beau jour, comme toute belle histoire, ils ont une quinzaine de bébés chiens. Leur joie et celle de leur maître Roger et Anita seraient sans ombre si l'infâme Cruella, ancienne camarade de classe d'Anita, ne convoitait les chiots pour réaliser... la saleté, un manteau de fourrure.
Cruella de Vil, Cruella de Vil, if she doesn't scare you, no evil thing will.
Oh,
to
Roger.
See her is to take a sudden chill. Cruella, Cruella, she's like a spider waiting for the kill.
Roger, look she'll out, hear you.
Cruella de Vil.
Un soir, profitant de l'absence du couple, les méchants Jasper et Horace font main basse sur la portée et Pongo et Perdita se lancent alors dans un plan de sauvetage désespéré. C'est ainsi que démarrent donc les 101 Dalmatiens. Tu pourrais se dire en 15 plus 2, ça fait 17. Non, on n'est pas à 101.
Ah oui,
mais pour faire un manteau, il en faut quand même des Dalmatiens. Le film est sorti le 25 janvier 61 aux États-Unis et est sorti en France le 20 décembre 61. Donc toi, à cette époque, les films sortaient pas au même moment partout, et y compris quand il avait une sortie parisienne.
Mais
il
n'y
avait pas
le...
une sortie province en même temps.
Mais c'était déjà à l'époque le Disney de Noël.
Exactement, exactement. C'était le Disney de Noël. Alors, il a eu droit à d'autres des suites, hein, bien
éditions,
évidemment,
ouais.
des éditions différentes. Parmi les Disney, c'est certainement un des Disney marquants, puisqu'on a l'arrivée d'animaux de compagnie. Et on va rééditer ça quelques années plus tard avec les chats, puisqu'on aura des chats musiciens, c'est normal, ça miaule, ça s'appelle les Aristochats. Et donc les 101 Dalmatiens, ça reste un des, pour moi, un des Disney phares qu'on peut voir à tout âge et qui reste dans une ambiance bien particulière. Et puis aussi, petit message de l'époque, beaucoup de Dalmatiens, de chiens Dalmatiens ont été achetés dans des élevages et beaucoup malheureusement se sont retrouvés à la SPA parce que le Dalmatien, contrairement à ce qu'on peut voir dans le film, n'est pas du tout un animal d'intérieur et est un animal qui a besoin de beaucoup se dépenser. C'est un animal de chasse. D'où le profil un peu paradoxal qui a été créé à travers ce film. C'est un peu les dommages collatéraux des 101 Dalmatiens, signé bien sûr Disney.
Walt Disney Pictures présente 101 frissons.
Je vais sonner l'alerte.
101 évasions. Et 101 occasions de rire aux larmes. Avec les 101 Dalmatiens.
C'est merveilleux.
Un des plus grands Disney. Un drôle de dessin animé qui a vraiment du chien.
prochainement au cinéma. Ne manquez pas le grand classique de Walt Disney, les 101.
Il y en a 101
dalmatiens.
C'est de l'inspiration.
C'est sur cette bande-annonce presque d'époque, en tout cas très nostalgique, et cette musique signée George Burns pour les 101 Dalmatiens que se termine ce volet de Cinématique sans toc, l'actu Jean-Luc.
Oui Jean-Claude, on va se retrouver dans une quinzaine de jours, il sera question de l'après-conférence de presse du Festival de Cannes, où on aura découvert, puisque la conférence de presse du Festival de Cannes va avoir lieu dans quelques jours, donc on en saura beaucoup plus sur la sélection officielle de ce 70e Festival de Cannes, et nous consacrerons une partie de la prochaine émission sur ce grand festival mondial qui se déroulera à partir du 13 mai à Cannes.
D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma de notre part, vous serez les mieux accueillis.
Et ce qui est bien au cinéma, quand il pleut, on n'est pas mouillé, et quand il fait chaud dehors, on a une bonne température à l'intérieur, donc c'est parfait. Et puis un bon film, n'hésitez pas à aller rattraper par exemple le Jeu de la Reine si ce film passe pas loin. Et n'oubliez pas les films dont on vous a parlé dans cette émission. On vous souhaite d'excellents moments sur nos antennes respectives. À très bientôt pour une nouvelle édition de Cinématique sans toc. Bonne soirée à tous et à toutes.
À dans 15 jours, Jean-Luc, et on a juste le temps de conclure cette émission avec l'orchestre qui nous avait permis d'entamer cette session Cinématique sans toc, l'Orchestre National de France, qui interprétait la semaine dernière à la Maison de la Radio en hommage à Philippe Sard en sa présence à quelques grandes musiques de films, dont voici notamment, pour terminer, Garçon, réalisé par Claude Sauté en 1983.
Thank you.